Nous sommes vendredi 26 juin 2020, il est 18h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalangou au micro Nafissa Adam Sirfo. Les titres de ce journal, plus de 8 milliards de francs CFA, c'est la valeur des drogues saisies au Niger en 2019. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice à l'occasion ce jour de la journée internationale de lutte contre l'abus des substances illicites et des drogues. La cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest dans la médiation pour la libération de la journaliste nigérienne Samira Sabou, poursuivie pour diffamation par le directeur de cabinet adjoint du président de la République et incarcérée depuis le 10 juin, à suivre les démarches entreprises avec le PCA de la cellule. Dans le magazine de ce journal, nous verrons comment les opérateurs économiques de la région de Diffa souhaitent être impliqués dans les préparatifs de la fête tournante de la République qui se tiendra en décembre dans la région. Le monde célèbre ce 26 juin 2020 la 33e journée internationale de la lutte contre l'abus des substances illicites et des drogues. En 2019, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Octrice du Niger a saisi des drogues d'une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA, a annoncé hier Moro Amadou, le ministre de la Justice. Selon lui, il s'agit de plus de 6 tonnes d'herbe, 6 kg de résine de cannabis, près de 550 g de cocaïne et environ 5 millions de comprimés de tramadol et autres comprimés saisis. Il a ajouté que c'est la jeunesse qui est la plus affectée par ces phénomènes d'abus de drogue et de trafic illicite. La consommation de drogue, quelle stratégie pour garantir les droits humains? Le thème d'une conférence organisée ce matin par le Club des étudiants en droit et l'Association nigérienne de lutte contre la drogue et l'immigration illicite. Selon le président de l'ANLDCI, cette conférence entre dans le cadre de la campagne internationale annuelle « Soutenez, ne punissez pas » organisée chaque 26 juin à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Explication de Kofi au micro de Moussa Hassan.
Les questions qui concernent la drogue sont essentiellement prohibitionnistes, répressives. Une drogue, c'est toute substance qui peut avoir des modifications sur le cerveau. Il y a des drogues licites et des drogues illicites. Au Niger, l'alcool a un statut de drogue licite. Par exemple, le cannabis qui est une drogue, au Niger, a un statut de drogue illicite. Mais par contre, quand vous allez au Canada, le cannabis a un statut légal. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup dans toute cette histoire, c'est la personne humaine qui consomme cette drogue-là. S'il est usager de drogue, est-ce que ses droits lui sont enlevés? Est-ce que parce qu'on est usager de drogue, qu'on n'est plus membre de la société, on doit se retrouver en prison? Quelque part, nous savons que la toxicomanie est une maladie chronique et récurrente du cerveau. Ceux qui sont des usagers de drogue sont quelque part des malades. C'est pourquoi nous avions intitulé le thème « Consommation de drogue, quelle stratégie pour garantir les droits humains ?»
Trouver des pistes de solutions pour que la journaliste nigérienne Samira Sabou puisse recouvrer la liberté, c'est l'objectif du point de presse animé hier à Niamey par la Maison de la Presse et la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Pour rappel, la journaliste est accusée de diffamation par le directeur de cabinet adjoint du président de la République du Niger et incarcérée depuis le 10 juin. Moussa Ksar, PCA de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest et joint au téléphone par Studio Kalangou.
Ce matin, nous irons voir notre consoeur au niveau de la prison civile de Niamey pour lui poser un certain nombre de questions. Premièrement, si elle a des preuves ou un commencement même de preuves en tant que journaliste d'investigation, nous nous sommes dit que nous sommes solidaires et nous allons faire ce dossier le nôtre pour continuer ce combat au plan national, international, en Afrique, mais aussi au-delà avec certaines organisations internationales pour que notre consoeur retrouve sa liberté. La seconde démarche, si au cas où elle a eu à commettre une erreur, ça existe dans le jargon journaliste, on peut faire un rectificatif, c'est de lui demander de faire un rectificatif et demander des excuses à ses lecteurs et aussi aux plaignants pour dire qu'elle s'est trompée, ça arrive. Et nous allons, à partir de ce rectificatif, aller trouver le plaignant pour qu'il puisse retirer sa plainte pour l'intérêt de la liberté de presse au Niger.
En bref, le mercredi 24 juin, dans la région de Tillabéri, 10 humanitaires travaillant pour le compte de l'ONG APSIF ont été enlevés par des hommes armés. C'était dans la localité de Bossé-Bongou, dans le département de Torodi, près de la frontière burkinabé, nous apprend un poste en ligne d'Actu Niger publié hier. APSI est une ONG nationale partenaire du programme alimentaire mondial PAM. Ces agents ont été enlevés alors qu'ils préparaient une distribution gratuite de vivres à la population de cette localité. Pour l'instant, l'enlèvement n'a pas été revendiqué, indique la même source. Vols, viols, meurtres sont de plus en plus signalés dans la capitale nigérienne. Malgré le travail, selon le gouverneur de Niamey, de la police judiciaire et des services de sécurité, le banditisme est grandissant. Issaka Hassan Karanta précise qu'une des difficultés du Conseil régional de sécurité et de la lutte contre le banditisme, c'est le refus de collaboration de la population. Il est au micro de Diallo Maria Mekenda.
Les services de sécurité sont avisés. Vous avez vu que la PJ a démantelé déjà plusieurs réseaux de gangs qui opèrent dans la ville de Niamey, et souvent au-delà même de Niamey. Seulement, ce qui est déplorable ici, c'est le silence complice de la population. Quand nous savons que la population sait avec exactitude là où ces gens habitent, et le plus souvent, c'est des parcelles vides dans lesquelles ils vont construire des huttes de fortune, ou souvent c'est des maisons en construction qui sont à la périphérie.
Quelle est la part de responsabilité et de la région et de la ville de Niamey?
C'est d'abord interpeller les propriétaires des parcelles non bâties. Parce qu'il y a un délai au bout duquel, si vous n'arrivez pas à mettre en valeur votre parcelle, on vous appelle pour vous notifier le retrait. Nous avons tenté ce qu'on appelle la police de proximité. Donc, amener les populations à approcher les forces de défense et de sécurité. Mais avec tout ça, les gens traînent le pied. Et donc, c'est ce qui fait que ces vols prennent de l'ampleur et commencent vraiment à faire tourner à des films de western.
Dans la nuit du mercredi au jeudi, les membres de la commission d'ordre de l'Université d'Ottawa sont rentrés en conflit avec ceux du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa, ce qui a amené le comité exécutif de l'UNUTA à suspendre la commission d'ordre. Mahamadou Issoufou, secrétaire général des étudiants de l'Université d'Ottawa, explique au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
C'est conformément au principe et y égard à quelque chose qui s'est passé d'extrême d'horreur que nous avons constaté, ayant été occasionné par la commission ordre qui est censée sécuriser tous les étudiants et toutes les étudiantes de l'Université d'Ottawa. Malheureusement, ces gens se sont donnés à prendre la main jusqu'à tabasser les étudiants, membres du comité exécutif ou amis morts. Parce que hier, nous avons transporté des étudiants, les camarades SK et les camarades SKAX d'un état inconscient. Et c'est pourquoi lorsque nous nous avons vu, nous avons dit nous allons agir, nous allons mettre fin à ça. En première position, nous leur avons suspendu. Nous avons saisi tout celui qui est des droits par rapport à cette question. Nous allons mener des enquêtes pour voir qui et qui sont auteurs. D'ores et déjà, les camarades ayant reçu des coups, ils disent qu'ils ont la connaissance de tous ceux qui leur ont porté la main.
Dans un tweet en début de semaine, le président nigérien Mahamadou Buhari a déclaré, je cite, « Si l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, crée sa monnaie éco, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va se disloquer ». Pour l'altermondialiste nigérien Mohamed Sani Adamou, les propos du président Buhari révèlent un antagonisme. Il est joint au téléphone par Assoumane China.
Les pays de la zone franc n'ont jamais émis cette idée de transformer le nom de leur monnaie. C'est plutôt la CEDEAO qui voulait de ça. C'était tout juste un jeu pour empêcher la naissance de l'éco. Et donc, ce tweet-là du président Buhari ne fait que révéler la réalité et surtout la prise de conscience par le Nigeria, le Ghana et d'autres pays du fait que, en réalité, dans l'espace francophone, on dit du bout des lèvres oui à la monnaie commune, mais dans la réalité, ces États ne sont pas en mesure de participer effectivement à cela, retenus qu'ils sont par la France, tant qu'ils n'arrivent pas à se dégager de l'emprise. Et la France dit qu'elle va garantir, mais on ne garantit pas la monnaie de quelqu'un pour ses beaux yeux. Il faut une contrepartie, laquelle? Et au fond, ce que la CEDEAO voulait, c'était un écho qui n'est arrimé à aucune monnaie, en tout cas pas à l'euro. Le combat doit se maintenir et s'approfondir pour obliger les États à aller vers cette monnaie, qui est un moyen de restaurer la souveraineté de l'Afrique de l'Ouest.
Hier 25 juin, trois nouveaux cas positifs d'infection à la COVID-19 ont été enregistrés au Niger, dont deux à Niamey et un à Zender. C'est ce qui ressort du communiqué officiel du ministère de la Santé publique, ce qui porte à 1059 le cumul des personnes infectées par la maladie sur 6674 testés réalisés. 113 patients sont en cours de traitement, 919 personnes sont guéries et 67 sont décédées de la maladie, indique la même source.
Salut frérot, comment tu vas?
Ouais man, je vais bien, Dieu merci, et toi?
Oh, ça crache, le réseau n'est pas bon.
Bah pourtant, je te reçois bien.
Ah, c'est bien, donc, et les activités?
Parler d'activités en ce moment, c'est difficile, tu sais. Mon oncle qui est de retour du voyage là, apparemment, lui, il va pas bien. Hein?
Ah oui? Comment tu as réussi à savoir?
Il tousse, il a le corps chaud, des problèmes de respiration, vraiment que des symptômes bizarres.
Mon frère, voici les conseils que je te donne. Il ne faut pas sortir de chez vous. Il ne faut pas non plus donner l'occasion aux autres de venir chez vous. Il faut surtout appeler le 15. À la minute près, une équipe sera chez vous pour prendre votre oncle en charge et diagnostiquer l'état de santé de toute la famille. Ne néglige pas. Il faut isoler votre oncle et chercher aussi les bavettes pour qu'il couvre sa bouche et son nez.
Mais pourquoi tout ce protocole?
Tu sais pas, il y a un virus qui circule partout. Hein. Personne n'est épargné. Je veux parler du coronavirus.
Subhanallah, la situation est sérieuse. Que je raccroche. Je vais informer toute ma famille et appeler rapidement le 15.
Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui étaient en contact avec lui.
Merci beaucoup, man.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, le magazine de ce journal, la fête tournante de la République du 18 décembre prochain, aura lieu à Diffa. À cette occasion, plusieurs travaux, dont la construction d'infrastructures, est prévue. C'est pourquoi le bureau de la circonscription consulaire de la Chambre de commerce de Diffa souhaite la pleine implication des opérateurs économiques de la région dans les travaux du programme de Diffa Ngla 2020. Selon Abba El Hadj Ali, secrétaire consulaire au bureau de la dite circonscription, la région regorge de toutes les compétences nécessaire. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Le programme d'Ifangla, c'est un cumul d'à peu près 30 milliards pour un programme triennal, dont presque 16 milliards qui seront investis en 2020. Et vous savez, les infrastructures, les fournitures et autres, c'est des valeurs ajoutées à l'économie nationale. Et surtout que le Premier ministre, le président du comité d'organisation, n'est-ce pas, de d'Ifangla, nous ont promis que ces marchés seront attribués dans la limite des possibilités, n'est-ce pas, de nos réalisations, de nos capacités aux opérateurs de DIFA. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est de nous appuyer dans le paiement, n'est-ce pas, de nos décomptes et surtout de nous donner des avances parce que DIFA est tapé de plein fouet par l'insécurité qui nous a mis à plat. Dans la région de DIFA, on dénombre à la date du 31 décembre 2019, n'est-ce pas, près de 1088 NIF, n'est-ce pas, répertoriés au service régional des impôts. Mais sur les 1088, plus de 500 sont en cessation d'activité, sont en faillite. Et cette faillite-là est liée à plusieurs facteurs.
Parlons-en des opportunités des opérateurs économiques. Est-ce que les opérateurs économiques de la région de Diffa peuvent relever les défis de la réalisation du Diffa Ngla?
Ce qui est sûr, pour toutes les activités et les fournitures, il y a les compétences à Diffa. Ce qu'on peut exclure, c'est seulement la réalisation de l'aéroport et la route donc urbaine qui est déjà attribuée à la société Satom Soja. Mais sinon, pour les autres activités, en tout cas, il y a les entreprises. On a des grandes entreprises, des quatrièmes catégories, hors catégorie n'est-ce pas, qui sont là. Il y a des entreprises moyennes et les petites entreprises. Et même les investissements, les ouvrages qui seront machines sont catégorisées en trois. Il y a des petits travaux, il y a des travaux moyens et des grands travaux. Même si pour les grands travaux, les gens peuvent, n'est-ce pas, être pessimistes, n'est-ce pas, pour ne pas nous attribuer, mais pour les travaux moyens et en tout cas les petits travaux, il n'y a rien à faire en tout cas à DIFA. On a la capacité. Et surtout notre organisation, le bureau régional donc des BTP dont je suis le secrétaire général, nous sommes en train donc de nous organiser pour former des groupements d'entreprises en même, n'est-ce pas, de pouvoir avoir la capacité technique, financière et matérielle, n'est-ce pas, de pouvoir exécuter les travaux.
Comment amener les autorités et même le comité d'organisation de Difangla à faire confiance aux opérateurs économiques de la région?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas surtout voir l'aspect même réalisation. Il faut prendre le projet Difangla comme un projet de lutte contre le terrorisme.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout de suite pour le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères de la presse.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et studio Kalangou au rythme du Niger.